Publix. Cats out frontin' like they swag galore. I don't rock Prada, I don't need Dior. Who the fuck with the brands that need me more? I own a shop of horror, Phoebe Seymour. And most of y'all cats really ain't original. Wear the same gear that I did a year ago. Learn about fashion, but you can't buy swag. No matter how much you stuff in your Louis bag. My paper is the flyest, your fresh is borrowed. You paying for a stylist, anything I want, I'ma go get. You don't wear skinny jeans cause your legs don't fit. I wear skinny jeans cause I don't got a knot. Won't buy your respect cause I got those props. I don't do it to hate, I don't even dislike you. If I said I was the best, I would be just like you. Like everyone else who say they the best. Like everyone else who claim that they fresh. I just do Lex cause Lex stay fresh. Only a few people I know could say they the best. Like Lex in the South and Andre's next. With chicks like Beyonce on Jay's chest. And I rip beats like Kanye, Kanye West. While little brothers get schooled like a Fonte test. Think I'ma have to let him know a little something. Learn how to dress, just by jacking my fresh. Jacking my fresh, jacking my fresh. Learn how to dress, just by jacking my fresh. Jacking my fresh, jacking my fresh. Maybe I'm a hypocrite, maybe I'm just ignorant. Cause I said I wouldn't brag, I'm the best, but I'm feeling it. Bite my style, straight up stealing it. Bite your tongue, it's made up of relevant. I gave cats swag and a reason to rap. Now they front so much, all I see is they backs. Assault and battery, couldn't sell swag if they own a fresh factory. My top is my family, rest in peace. I'm on a new salary, fly paper, gangster magic, no fallacy. Final fantasy, fresh is my policy. Next to me, your swag is demolished. Me stand and salute, you might as well honor me. Pop your collar, death before dishonor, your honor. I'm on a whole new plane, cause right after me, fresh can never be the same.
En partenariat avec RFI.
Merci d'écouter RFI. Il est midi en temps universel, 13h à Paris.
RFI midi.
Et c'est l'heure du journal. Bonjour Mathis Limano.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à tous.
Avec à la une, le Moyen-Orient toujours sous les bombes et l'Iran durement frappé par l'armée israélienne.
L'État hébreu qui affirme avoir éliminé le chef des renseignements iraniens, alors même que la République islamique enterre en ce moment des hauts responsables du régime, dont Ali Larijani, le chef de la sécurité. Israël qui bombarde aussi sans relâche le Liban, la capitale, Beyrouth frappée en son cœur, au moins 12 morts depuis cette nuit. Les États-Unis également à la manœuvre dans la région, et ce grâce notamment à leur porte-avions, le Gerald Ford, mastodonte des mers. Mais voilà, après des incidents à répétition, il doit subir des réparations. Explications à suivre.
Nous irons aussi en Cisjordanie occupée.
Avec un reportage à Tamoun sur les lieux d'une fusillade, des soldats israéliens ont tué 4 membres d'une même famille. Un point sur les municipales en France. La droite augmente ses chances de victoire à Paris. On vous explique pourquoi. Et puis vous connaissez sûrement ses œuvres, La Banane ou encore La Petite Fille au Ballon. L'identité du street artiste Banksy aurait été dévoilé.
L'Iran enterre son chef de la sécurité et promet des répercussions mondiales.
Un drapeau de la République islamique et soutien du régime en pleurs. Ils sont venus nombreux à Téhéran pour assister aux funérailles d'Ali Larijani, le chef du Conseil suprême de sécurité nationale, tué dans une frappe israélienne. En représailles, l'Iran a ciblé aujourd'hui la région de Tel Aviv, des frappes qui ont fait 2 morts et promet donc des répercussions mondiales. De son côté, le ministre de la Défense israélien donne l'autorisation à l'armée d'éliminer tout haut responsable iranien qui serait dans sa ligne de mire. Israël Katz qui a prévenu que les bombardements en Iran allaient monter d'un cran. Guilhem Deltey, bonjour.
Bonjour Mathis.
On fait le point avec vous sur les nombreuses frappes ces dernières heures qui ont eu lieu sur tous les fronts en Iran d'abord.
Oui, cette nuit, ce matin encore, Téhéran de nouveau visé Israël qui se félicite d'un nouveau succès. Selon son ministre de la Défense, le pays, vous l'évoquiez, a tué un troisième responsable iranien en deux jours. Il s'agit cette fois-ci du ministre du Renseignement, Ismail Khatib. Et Israël Katz menace ses adversaires d'importantes surprises au cours de la journée encore. Des menaces qui concernent aussi le Liban, où Israël poursuit d'intenses opérations. Le pays a prévenu qu'il s'apprêtait à bombarder ce mercredi des ponts sur le fleuve Litani. Ce matin, il a mené des bombardements sur le sud du pays ainsi que sur Beyrouth, des bombardements indiscriminés aux yeux de nombre de Libanais comme Ali, dont l'immeuble qui se trouvait dans le centre de la capitale a été détruit ce matin. Mélissa Barra, envoyée spéciale de la rédaction Amérique latine de RFI à Beyrouth, l'a rencontrée.
On est tous des civils. Il n'y a aucun rapport avec Hezbollah. Pour 100% des personnes qui habitent dans cet immeuble. Mais eux, ils disaient qu'il y avait un banc. Bah c'est bon, si c'est vrai, mais c'est déjà bombardé. Pourquoi nous faire perdre tout ?
En réponse, l'Iran a aussi frappé Israël. Un missile a provoqué la mort de deux personnes dans le centre du pays cette nuit. Le conflit se poursuit également dans le Golfe, où les monarchies arabes sont visées quotidiennement par l'Iran. Les Émirats arabes unis, Mathis, disent avoir recensé 13 missiles et 27 drones visant leur territoire depuis le début de la journée.
Guilhem Deltay, service international de RFI, merci à vous. Et parmi la force de frappe côté États-Unis, Washington peut compter en mer Rouge sur le Gerald Ford, plus grand porte-avions au monde. Il joue un rôle central dans la guerre. Mais voilà, après des incidents à répétition, il doit subir des réparations. Sarah Krakowicz, cela fait près de 9 mois que le Gerald Ford est déployé.
Il transporte des dizaines d'avions de guerre qui mènent des frappes en Iran depuis plus de 2 semaines et près de 4000 marins. L'USS Gerald R. Ford, symbole de puissance militaire états-unienne, va mettre le cap vers la Crète pour des réparations. Un incendie s'est déclaré à son bord la semaine dernière. Résultat, 2 militaires blessés et 100 de lits détruits. Selon le New York Times, il a fallu 30 heures pour maîtriser l'incendie et 600 personnes à bord dorment désormais par terre ou sur des tables. La marine, elle, assure que l'incident a été maîtrisé, qu'il n'avait aucun lien avec les opérations de combat en cours et que les blessés sont dans un état stable. Elle avait par ailleurs déjà reconnu en février que les canalisations du navire étaient régulièrement bouchées. Pour le sénateur américain démocrate Mark Warner, le Ford et son équipage sont poussés à bout et payent le prix des décisions militaires imprudentes du président Donald Trump. La présence prolongée en mer des marins suscite depuis plusieurs semaines des inquiétudes sur leur morale et sur l'état du navire.
Merci Sarah Krakowicz. Le navire qui pourrait être remplacé d'ailleurs par le porte-avions George Bush qui se prépare à être déployé au Moyen-Orient. Les derniers développements dans la région, minute par minute, c'est à suivre sur le live de RFI. Rendez-vous sur RFI.fr.
Et alors que la région continue de s'embraser en Cisjordanie occupée, les forces israéliennes poursuivent leurs exactions.
Avec ce drame ce week-end dans le nord de la Cisjordanie à Tamoun, on est à l'est de Naplouse. Des soldats israéliens ont ouvert le feu sur un véhicule. À son bord, un couple de trentenaires et deux de leurs enfants, 5 et 7 ans, sont morts sur le coup, leur corps criblé de balles. Deux autres enfants présents dans le véhicule ont, eux, survécu, mais ils ont vu leurs parents et leurs frères mourir sous leurs yeux. Alice Moreno s'est rendue sur les lieux de la fusillade.
Du haut de ses 12 ans, Khaled se remémore la nuit de la tuerie. Tout a commencé par une sortie en famille dans la grande ville voisine.
Nous faisions des courses à Naplouse. Nous avons dîné et finalement nous avons pris le chemin du retour. Sur la route vers notre maison, c'est là qu'ils ont ouvert le feu.
Au milieu de la nuit, la voiture familiale prend un virage. Au tournant, des hommes armés tirent en direction du véhicule. Ali, le père de famille, sa femme Wahad et deux de leurs enfants meurent sur le coup. Khaled et l'un de ses frères ont survécu.
Quand ça s'est arrêté, j'ai ouvert la porte. Les soldats m'ont hurlé dessus et m'ont traîné par les cheveux et m'ont frappé à même le trottoir.
Sur les lieux de la fusillade, le sol est encore taché de traces de sang et un poteau est souillé de morceaux de chair. Khaled décrit des dizaines de tirs. Aujourd'hui, il réclame justice.
Je veux que chaque personne impliqués soient tenus pour responsables, que chacun soit tenu responsable.
Les autorités israéliennes indiquent qu'un bataillon de la police aux frontières menait une opération dans le secteur quand ils ont vu un véhicule accélérer et ont ouvert le feu. Naja est la grand-mère des petits qui ont été tués.
C'est le pire des crimes. On parle d'enfants. Où sont les droits de nos enfants, les droits humains ?
L'autorité palestinienne condamne ce qu'elle qualifie de massacre et dénonce une exécution extrajudiciaire. Alice Moreno, à Tamoun, RFI.
Violence de soldats israéliens, les attaques de colons, elles aussi, sont de plus en plus nombreuses, au point que 4 anciens hauts gradés israéliens dénoncent des pogroms purs et simples menés en Cisjordanie occupée. On en parlera dans une dizaine de minutes avec notre invitée, maîtresse de conférence à la retraite en linguistique à l'Université hébraïque et au Collège David Yelin de Jérusalem. RFI, il est 16h37 à Kaboul.
Une ONG confirme le très lourd bilan, plus de 400 morts après une frappe pakistanaise sur la capitale afghane. Elle a touché un hôpital, une version que réfute Islamabad, qui assure ne cibler que des sites militaires des talibans. Le conflit ancien entre le Pakistan et l'Afghanistan a dégénéré il y a maintenant 3 semaines. Après 25 ans de la gauche au pouvoir, la mairie de Paris va-t-elle virer à droite ? Le vent est en tout cas en train de tourner en faveur de Rachida Dati, la candidate Les Républicains, qui a pourtant vécu un premier tour décevant, largement distancé de plus de 12 points par le socialiste Emmanuel Grégoire. Mais voilà, les tractations de l'entre-deux tours ont porté leurs fruits. Rachida Dati a obtenu la fusion avec la liste du centriste Pierre-Yves Bournazel, tandis que la concurrence s'efface sur sa droite avec le retrait de la zémoriste Sarah Knafo, quand Emmanuel Grégoire devra lui gérer sur sa gauche la présence de l'insoumise Sophia Chikirou. Les cartes sont rebattues, Valérie Gasse, et tous les yeux décidément tournés vers la capitale.
Oui, les planètes sont-elles en train de s'aligner pour Rachida Dati? À 5 jours du second tour, elle a réussi à éliminer ceux qui l'ont mise en difficulté au premier tour. Au centre donc le philippiste Pierre-Yves Bournazel, à droite la zémoriste Sarah Gnafo, avec comme conséquence la nécessité de mener une campagne qui envoie des messages des deux côtés pour s'assurer de capter les votes qui leur étaient destinés. Un exercice pas si simple qu'elle devra notamment réussir ce soir lors du seul débat télévisé de cette campagne parisienne où elle affrontera Emmanuel Grégoire, qui ne manquera pas de tenter de la mettre en porte-à-faux en évoquant la déclaration de Jordan Bardella, qui a assuré hier qu'à titre personnel, il voterait Dati à Paris. Un soutien embarrassant pour la candidate LR, déjà accusée de ne pas avoir assez clairement pris ses distances avec Sarah Knafo. D'autant que Bruno Retailleau a dit ce matin assumer d'appeler les électeurs du RN à voter pour elle. Sur le papier, l'arithmétique est donc devenue plus favorable à Rachida Dati, mais la politique est parfois plus compliquée que les calculs.
Valérie Gasse, et vous l'évoquiez, l'ex-ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui s'est également exprimé sur les municipales à Nice, refusant d'apporter son soutien au maire sortant Christian Estrosi, nettement distancé au premier tour, 12% derrière son ami d'hier, le candidat UDR Éric Ciotti. À Marseille, le scrutin reste très incertain entre le maire sortant de gauche Benoît Payan et le candidat RN Franck Alizio. Tous deux doivent débattre demain soir sur France 2. En Norvège, plus de 7 ans de prison requis contre le fils de la princesse héritière Marius Borg Høiby, 29 ans, est jugé pour viol et violence sur d'ex-compagne. Il reconnaît certains faits mais conteste les accusations de viol. Tout agresseur extérieur se heurtera à une résistance indestructible. Les mots du président cubain Miguel Díaz-Canel face au désir de Donald Trump de prendre le contrôle de Cuba. Le président américain a multiplié dernièrement les menaces, parlant de libérer l'île communiste, mais en coulisses, des négociations ont bien lieu entre Washington et La Havane.
Au Chili, à peine investi, le nouveau président d'extrême droite s'attaque déjà aux normes environnementales.
José Antonio Kast, son gouvernement a suspendu au total 43 décrets sur des sujets aussi vastes que la qualité de l'eau, la pollution de l'air ou encore la biodiversité, Simon Rosé.
Et oui, je comprends les inquiétudes, mais les citoyens ont besoin de croissance, ils ont besoin d'emploi. José Antonio Kast justifie cette attaque contre les mesures prises par son prédécesseur. 43 décrets dont des normes pour garantir la qualité de l'eau, pour réguler les émissions polluantes des centrales électriques et des industries lourdes, des plans pour adapter le Chili aux conséquences du changement climatique et atténuer ses émissions de gaz à effet de serre, et enfin toute une série de mesures pour protéger l'environnement et la biodiversité, notamment la création de plusieurs parcs nationaux et d'aires protégées sur terre et en mer. Tout cela est donc suspendu et pas annulé, car ces décrets n'étaient pas encore entrés en vigueur. Leur rédaction est le fruit d'un travail de plusieurs mois, voire année pour certains, nécessitant des études techniques, des consultations publiques. Tout est donc arrêté, alors que le processus touche au but, à quelques semaines seulement de la mise en application de ces mesures.
À Simon Rosé.
Et puis Banksy, démasqué peut-être, ou enfin rattrapé par la réalité.
Eh oui, depuis des décennies, la star du street art le plus mystérieux du monde réalise ses pochoirs et graffitis sur les murs des villes, au cœur des conflits, partout dans la planète. Voilà que l'agence de presse Reuters affirme avoir percé le secret de l'identité de celui qui a fait de l'anonymat sa signature, José Marinho.
Derrière le mythe Banksy, un nom, celui de Robin Gunningham, street artiste né en 1973 à Bristol, en Angleterre. Cette fois, l'enquête fleuve menée par Reuters propose une démonstration structurée. Point de départ, une œuvre réalisée en 2022 sur un mur en ruine en Ukraine. Des témoins évoquent la présence de trois hommes, photo à l'appui. Parmi eux, Robert Del Naja, du groupe trip-hop Massive Attack, et un photographe. Reste un troisième individu à identifier. Les journalistes remontent alors jusqu'à New York. Un rapport de police daté de 2000 fait apparaître la confession d'un homme qui reconnaît avoir détourné un panneau publicitaire. Une confession signée Robin Gunningham. Puis l'homme en question disparaît des radars et réapparaît sous le nom de David Jones. Même date de naissance, même origine et surtout même présence attestée officiellement à la frontière ukrainienne en 2022. Robin Gunningham, devenu David Jones, serait Banksy. Si Banksy perd son anonymat, que reste-t-il de Banksy ? Un artiste ou une énigme qu'on n'aurait peut-être jamais dû résoudre.
Et l'énigme donc peut-être percée. Merci José Marigno, service culture de RFI, RFI Midi. Ça continue avec vous Anne Cantner.
Merci Mathis Limano. La suite, ce sont les sports. Bonjour Olivier Prou.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Avant de parler football sur le terrain, on va revenir bien sûr sur cette décision annoncée tard hier soir par la Confédération africaine de foot de donner en fin de compte au Maroc et sur tapis vert la victoire de la dernière CAN.
Incroyable, impensable, le degré ultime du football circus, Anne, c'est comme vous voulez.
C'est fou quand même.
C'est pour le moins fou, oui. Dans un énième coup de théâtre d'une finale de la CAN qui s'était terminée dans le chaos, hein, déjà le 18 janvier dernier, le jury d'appel de la Confédération africaine de foot a donc retiré ce mardi, deux mois après, le titre gagné par le Sénégal pour l'attribuer au Maroc. Dans un communiqué transmis dans la soirée, l'instance a annoncé avoir en effet décidé de, je cite, déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale, pourtant remportée 1-0 après prolongation par les Lions de la Teranga. Le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur du Maroc. Une décision inédite qui choque notamment Claude Leroy, l'ancien sélectionneur du Sénégal, du Cameroun, de la RDC et du Ghana, répond aux questions d'Alexis Guilleux.
Il y a deux sentiments. C'est sentiment de tristesse une nouvelle fois par rapport à la façon dont certains s'ingénient à abîmer l'image de ce continent, indépendamment, sortant même du contexte du football. Et puis le deuxième sentiment, c'est l'effarement sur ces décisions grand-guignolesques d'incompétents qui dirigent le football africain. C'est même pas eux qui dirigent le football africain. Ce sont les vassaux de M. Infantino qui dirigent le football africain depuis des années, qui se présente en Deus ex machina dès qu'il y a une compétition en Afrique, qui n'oserait pas faire le centième sur un euro ou sur une Copa América ou même sur une Asie des Nations.
chato manina taipa kwa kwa mungu 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 anajua juhudi zangu zote hatua hazitashindwa maisha ni safari hakuna kina shughuli za kuni nitorikwe okwe wala tini oye awa elumira ati lati shi agbega ifarada ati dani loju odose foster fun wala tipa di monte si waju mofolo bi eye yeah. Monte si waju mofolo bi eye yeah. Ife fun awa ala mije wa feeling me odose foster.
HDR 99.1 à Rouen. Groovy, groovy, jazzy, funky, pounce, bounce, dance as we dip in the melodic sea. Rhythm keeps flowing, it drips the MC. London, quite London, I need to make a sound. HDR.
Si tu n'existais pas, il faudrait t'inventer.
Je vous dis que j'aime pas le rock.
Tu n'aimes pas le rock.
Ah non, j'aime pas le rock. Alors je déteste le rock. J'ai horreur du rock.
Je me souviens d'un air sud-américain. C'était très amusant. Irène dansait comme une espagnole, un peu comme ça.
Free!